Voici le moment d'écouter le deuxième exposé biblique d'Amy Nicole, à qui je laisse la place.
Je vous vois beaucoup mieux ce matin que hier soir, c'est plus sympathique. Je verrai aussi si vous dormez, donc peut-être essayer de vous réveiller. Dieu donne sa loi. C'est le second thème que je vous propose pour notre étude de ce matin. Et avec la loi, nous nous trouvons directement aux prises avec le contraste du prologue du quatrième évangile. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors je vous propose dans un premier temps de mesurer un peu l'importance de la loi dans ce livre de l'Exode et plus généralement dans le Pentateuque et dans l'Ancien Testament. Le don de la loi occupe plus de la moitié du livre de l'Exode. Depuis le chapitre 19 jusqu'au chapitre 40, cela fait 22 chapitres sur 40, alors que le récit de la délivrance n'en occupait que 15, ou si on veut aller jusqu'au chapitre 18, ça fait 18. Et même si on retire du compte des 22 chapitres qui vont du chapitre 19 jusqu'au chapitre 40, si on en retire les chapitres 32 à 34 qui sont le récit du veau d'or, on trouve quand même plus de chapitres pour le don de la loi que pour le récit de la délivrance. Ça crée d'ailleurs une tension avec le titre du livre. Exode. Ce titre ne convient en fait qu'à une partie du contenu. Le livre de l'Exode est aussi, plus encore, si on s'en réfère à la quantité de texte, c'est le livre du don de la loi. Mais il n'y a pas que la quantité. Il faut aussi tenir compte de la place de la loi dans la structure des cinq premiers livres du Pentateuque. Les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Je n'ai pas un Pentateuque avec plus de cinq livres, excusez-moi. Cinq premiers livres de l'Ancien Testament qui forment le Pentateuque. La loi occupe la moitié du livre de l'Exode, elle occupe tout le Lévitique, elle occupe une bonne moitié du livre des Nombres, et c'est encore elle qui est largement présentée comme conclusion de l'ensemble dans le dernier livre, dans le livre du Deutéronome. Comme la loi est située dans le cadre du récit qui court depuis les origines de l'humanité avec le livre de la Genèse jusqu'à l'arrivée aux portes de la terre promise avec le livre des Nombres et jusqu'à la mort de Moïse avec le livre du Deutéronome, on peut très sérieusement se demander si l'objet essentiel du Pentateuque n'est pas la loi, les récits servant plutôt à présenter la loi qui est le plat de résistance de tout l'ensemble. D'ailleurs, dans la tradition juive, ce premier ensemble de la Bible est appelé Torah, il est appelé la loi, un nom qui va aussi se répercuter sur l'ensemble de l'Ancien Testament. Alors, nous chrétiens, nous soupçonnerons peut-être le judaïsme d'avoir accordé une importance excessive à la loi dans la révélation divine, mais il y a là quand même des données objectives, des données qui sont difficilement contestables, la quantité, la structure de l'ensemble, qui montrent que ce n'est pas seulement le judaïsme plus tardif qui accorde une place centrale à la loi, mais c'est l'Ancien Testament lui-même. D'ailleurs, le Nouveau Testament confirme bien la chose en mettant en parallèle la loi de Moïse, la grâce et la vérité de Jésus-Christ. Alors, cette partie du livre de l'Exode étant moins connue que les récits du début, je pense qu'il n'est pas inutile d'en retracer les grandes lignes. La loi étant située dans le récit, on peut distinguer deux grands événements et trois ensembles de lois. Les deux grands événements, c'est d'abord la manifestation de la présence de Dieu sur le mont Sinaï, ce qu'on appelle la théophanie, manifestation de Dieu. Le récit en est donné au chapitre 19 et à la fin du chapitre 20 du livre de l'Exode. Et puis le second grand événement, c'est la conclusion de l'alliance entre Dieu et Israël qui est rapportée au chapitre 24. Alors je laisse de côté l'épisode du veau d'or dont on parlera demain. Voilà pour les deux événements. Et puis les trois ensembles de lois, ce sont d'abord le décalogue, qui est proclamé directement par Dieu au cours de la théophanie. On le trouve dans le chapitre 20, versets 1 à 17, et c'est la partie la plus connue de la loi. Ensuite, deuxième ensemble, une série de lois qui concernent plutôt l'organisation de la société, des lois au sens habituel, au sens contemporain du terme. Et cet ensemble, on a l'habitude de le désigner aujourd'hui sous le nom de Code de l'Alliance. Il comprend les chapitres 21 à 23 du livre de l'Exode. Et puis le troisième ensemble, les chapitres 25 à 31, le troisième ensemble est le plus détaillé, c'est une description des objets du culte, le coffre de l'Alliance, les autels, etc., et une description du lieu du culte que l'on appelle habituellement le tabernacle. Alors, les chapitres 35 à 40, pour rendre compte de l'ensemble du livre, qui font suite au veau d'or, reprennent en fait les instructions des chapitres 25 à 31. Donc, on n'a pas, avec ces chapitres-là, un élément nouveau par rapport aux chapitres 25 à 31. Lorsque l'on relie ces trois ensembles de lois aux deux événements fondateurs, comme ils le sont dans le récit de l'Exode, on se trouve en présence d'une communication progressive des instructions divines. Dieu communique ses instructions progressivement, et dans le cadre d'un engagement progressif des deux partenaires, Dieu et Israël, ces deux partenaires qui s'engagent dans l'alliance qui va les lier l'un à l'autre. Lorsque Dieu vient à la rencontre de son peuple en manifestant sa présence sur le mont Sinaï, avec les éclairs, avec le tonnerre, les nuées, le tremblement de la montagne, Dieu proclame le décalogue qui énonce les principes fondamentaux, les devoirs de l'être humain envers Dieu, envers son prochain. Ce sont là les règles de base de la piété, de la morale. Et Dieu a pris soin de les énoncer du haut de la montagne. Et Dieu a court-circuité le médiateur Moïse. Représentez-vous la scène. La montagne est environnée de nuées, d'éclairs. Le peuple a interdiction de franchir des limites. Le peuple est en train de trembler. Et Dieu convoque Moïse au sommet de la montagne. Et Moïse monte au sommet de la montagne. Et lorsqu'il arrive, Dieu lui dit « Redescends ». Moïse dit « Mais pourquoi redescendre ?» Dieu lui dit « Redescends, avertis le peuple de ne pas franchir les limites. » Et Moïse dit « Mais il est averti, le peuple, il sait qu'il ne faut pas franchir les limites. » Dieu lui dit « Redescends, tu reviendras après. » Et c'est au moment où Moïse est redescendu que Dieu proclame les 10 paroles du décalogue. Ensuite, les lois civiles du Code de l'Alliance, elles sont communiquées à Moïse, qui se rend pour cela sur la montagne, et qui là reprend son office habituel de médiateur. Et c'est sur la base de ces lois civiles que l'Alliance va être conclue au chapitre 24. Moïse rapporte les lois au peuple, d'abord il les rapporte oralement, Ensuite, il les met par écrit. Il organise au pied de la montagne une cérémonie au cours de laquelle des sacrifices sont offerts. La loi qui vient d'être écrite est lue. Donc le peuple l'a entendu deux fois le même jour. Une première fois oralement, deuxième fois lecture du texte écrit. Et puis le peuple s'engage à l'observer. Et Moïse fait l'aspersion du peuple avec le sang des sacrifices offerts et déclare « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Et après cela, une délégation d'Israélites est admise sur la montagne où a lieu un repas en présence de Dieu. Ainsi, on voit que l'alliance est conclue alors que le culte n'a pas encore été institué, alors que les objets du culte n'ont pas été décrits, que le lieu de culte n'a pas été décrit et que la façon d'offrir les sacrifices n'a pas été décrite non plus. C'est l'objet du début du livre du Lévitique. Alors après cette présentation de l'ensemble, revenons à notre contraste. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Comment la cohérence de Dieu se manifeste-t-elle en rapport avec cette loi donnée au Sinaï ? La cohérence peut être d'abord perçue dans le fait que ce contraste entre loi et grâce, loi de Moïse, grâce de Jésus-Christ, ce contraste n'est pas un contraste absolu, un contraste du tout ou rien. Tout n'étant d'un côté que loi et tout n'étant de l'autre que grâce. Il y a déjà de la grâce dans la loi de Moïse, je pense que tout le monde sera bien d'accord, mais il faut encore ajouter, il y a encore de la loi dans la grâce de Jésus-Christ. Alors je vais développer ces deux réflexions. Il y a déjà de la grâce dans la loi de Moïse. Cette grâce est perceptible en plusieurs endroits. Elle apparaît déjà dans le fait que la libération précède la loi. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ce sont les premières paroles du Décalogue, les premières paroles de la loi. La loi n'est pas donnée en vue de la libération. Dieu commence par libérer son peuple. Un peuple auquel il n'a pas demandé de mériter sa libération par l'observation de la loi, par exemple. Dieu le libère par grâce, parce qu'il a fait des promesses à ses ancêtres, aux patriarches, parce que Dieu a été touché de sa misère. Et c'est ensuite qu'il lui donne la loi. Et si la loi a affaire avec la libération, et bien sûr qu'elle a affaire avec la libération, on pourra en déduire que la loi est donnée pour préserver la liberté, pour assurer dans la durée cette liberté qui a été accordée par pure grâce à un peuple qui était totalement incapable de se procurer par lui-même cette liberté. Un peuple qui, même dans sa position de victime, n'était pas considéré par Dieu comme innocent. La grâce se voit donc dans le fait que la libération précède la loi. La grâce de Dieu se voit aussi dans le contenu de la loi. C'est en bonne partie une loi de grâce, une loi de libération. Quelle est la première disposition du Code de l'Alliance ? C'est la libération de l'esclave hébreu après 6 années de service. Nous lisons au début du chapitre 21. « Voici les ordonnances que tu placeras devant eux. » voilà les règles qui doivent régir la société. Lorsque tu acquerras un esclave hébreu, il te servira pendant 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. C'est une disposition qui n'a pas son pareil dans toute l'Antiquité et même bien au-delà. Imaginez un code civil qui commence par les dispositions relatives au SDF. C'est la société à l'envers. C'est la grâce. On s'occupe d'abord de savoir comment celui qui, pour une raison ou pour une autre, se trouve dans une misère telle qu'il n'a plus de moyens de subsistance, qu'il en ait été réduit à se vendre comme esclave ou qu'il a été vendu comme esclave à cause de ses dettes, comment cet être va pouvoir sortir de cette situation? Et quand on poursuit, et quand on prend en compte le grand ensemble de lois, parce que là, il faut déborder du livre de l'Exode, il faut aller jusqu'au Lévitique, le grand ensemble de lois qui va jusqu'à la fin du livre du Lévitique, comment se termine ce grand ensemble de lois? Il se termine par la loi du Jubilé, qui prévoit que les terres doivent revenir à la famille propriétaire, et que, en tout état de cause, ceux qui ont été esclaves doivent être libérés cette année-là, avec ce commentaire: ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, ils ne seront pas vendus comme des esclaves. Lévitique, chapitre 25, verset 42. Troisième indice de la présence de la grâce dans la loi, on peut le repérer dans le 4e commandement du Décalogue, le commandement du sabbat. Imaginez parmi les 10 règles les plus importantes, les règles qui déterminent les devoirs les plus sacrés de l'être humain envers Dieu et envers son prochain. Qui oserait penser que l'un de ses devoirs les plus sacrés soit de se reposer? Un jour par semaine, quand même, il faut travailler le reste du temps. Alors, donner la dîme, offrir des sacrifices, aller en pèlerinage, se priver de ceci ou cela, travailler davantage pour pouvoir peut-être donner davantage à Dieu. Non. Se reposer. Le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Le jour de Dieu, c'est un jour de repos, parce que Dieu, lui aussi, lui d'abord, s'est reposé. Nous ne sommes pas dans la logique des contraintes matérielles. Ces contraintes matérielles qui impliquent que pour que les uns puissent se reposer, il faut que les autres travaillent. On n'y échappe pas. Et dans la mythologie de l'époque, les humains travaillent pour que les dieux puissent se reposer. Mais ici, c'est parce que Dieu s'est reposé que l'être humain, lui aussi, est convié pour le jour de Dieu au repos. Il est invité à entrer dans le repos de Dieu. Repos de Dieu. Repos de l'être humain et par voie de conséquence de tous ceux qui dépendent de lui et dont la loi s'attarde à égrener la liste jusqu'à l'étranger, jusqu'au bétail. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger. Ainsi, dans la loi de Moïse, il y a déjà de la grâce. Et dans la grâce de Jésus-Christ, il y a encore de la loi. Jésus le souligne par des déclarations qui sont tout à fait explicites. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ce que Jésus dit en Matthieu 5, verset 17. Et la suite de l'enseignement de Jésus dans le Sermon sur la montagne, parce que c'est un des éléments du Sermon sur la montagne, la suite montre bien que cet accomplissement de la loi n'exclut absolument pas l'obéissance concrète au commandement, mais qu'au contraire, cet accomplissement comprend l'obéissance. Celui qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à le faire sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et qui les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. C'est le verset 19, deux versets après le verset 17 que l'on vient de citer. Et Jésus enfonce encore le clou en prenant pour référence les pharisiens. Pharisiens bien connus pour leur observation méticuleuse de la loi, pointilleuse de la loi. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est le verset suivant, le verset 20. Jésus ne dit pas de faire autrement que les scribes et les pharisiens, il ne dit pas de faire mieux, il ne dit pas de faire moins, il dit de faire plus. Alors ça ne ressort pas de manière toujours bien évidente de nos traductions modernes en français, mais il est bien clair qu'on est dans le registre de la quantité. Il y a deux mots qui le soulignent dans le texte original. Il y a le verbe périsseo, faire plus, et puis il y a l'adjectif comparatif, pléion, plus abondant. Autre présence de la loi dans la grâce, la façon dont Jésus résume la loi. Cette façon montre le lien profond qui unit la loi et son propre enseignement. Jésus ne considère pas la loi comme un ensemble de règles désuètes, tatillonnes, ou comme une façon perverse d'envisager l'existence, la relation avec Dieu et avec nos semblables. Il ne faut pas l'envisager sous cet angle-là de la loi, il faut la voir autrement comme relation. Non, pour lui, la loi touche à l'essentiel, à l'amour de Dieu et du prochain. Cet amour de Dieu et du prochain qui constitue les deux parties du décalogue, ce qu'on appelle communément les deux tables de la loi. Et c'est dans la loi elle-même que Jésus va puiser les deux commandements qui la résument. Il va puiser dans le Deutéronome le commandement de l'amour du prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Il va chercher dans le Lévitique le commandement de l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le contraste entre la loi donnée par Moïse, la grâce venue par Jésus-Christ, est un contraste qui ménage une continuité, une cohérence, la cohérence du dessein divin. Il y a de la grâce dans la loi, il y a de la loi dans la grâce. Mais il y a cependant un contraste, et il faut maintenant que nous essayions d'en rendre compte, sans contester le lien qui unit les deux. La façon dont s'exprime l'évangéliste Jean dans la fin de son prologue nous met sur la voie de la solution. Dans le contraste qu'il établit entre la loi de Moïse, la grâce et la vérité de Jésus-Christ, on constate que la symétrie n'est pas totale. De la loi, Jean dit qu'elle a été donnée par Moïse. De la grâce et de la vérité, il dit, elles sont advenues par Jésus-Christ. Moïse n'est qu'un intermédiaire. Il a transmis la loi de Dieu. Mais Jésus-Christ, lui, a fait venir la grâce. La grâce est venue en sa personne. Et par le fait même de l'incarnation. Comme le dit Jean quelques versets plus haut, au verset 14, il dit « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous plénitude de grâce et de vérité », ce sont les mêmes mots qui sont employés déjà au verset 14. Et cette grâce qui est déjà visible dans la vie, dans l'enseignement de Jésus, c'est par sa mort, par son sacrifice, qu'elle est accessible aux êtres humains. Jean l'évangéliste, juste après le prologue, donne la parole à Jean-Baptiste pour nous présenter Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 29 du même premier chapitre de l'Évangile. Donc la grâce qui est déjà présente dans la loi, ce n'est pas par Moïse qu'elle est venue. Jésus-Christ seul a pu faire advenir cette grâce. Et la loi en témoigne de manière anticipée. Sans la venue de Jésus, il ne pourrait y avoir de grâce dans la loi de Moïse. Ou cette grâce alors resterait très incertaine, elle resterait comme en suspens, en attente de la personne qui l'incarne, en attente de l'événement qui peut la justifier. Ainsi, les deux temps de l'action de Dieu, que sont la loi, le don de la loi, la venue de la grâce par Jésus-Christ, ces deux temps se trouvent articulés, se trouvent reliés l'un à l'autre, de manière à ne pas pouvoir être dissociés. Et c'est notre grand avantage de croyants de la Nouvelle Alliance, de pouvoir envisager ensemble le don de la loi, l'articulation de la loi, entre la loi et la grâce, à partir de Jésus-Christ, au travers de la grâce qui est advenu en Jésus-Christ. Nous savons que Jésus-Christ est mort pour nous, à notre place, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Versets 34 à 35. Et en recevant ainsi cette plénitude de grâce qui est évoquée par Jean, nous pouvons envisager la loi et ses directives de manière positive. Alors venons-en quand même à quelques difficultés. Il y a des aspects de la loi que nous avons laissés de côté jusqu'à présent. Il n'est pas possible d'en faire abstraction, parce que la loi forme un tout. Cette loi qui nous expose les devoirs fondamentaux de la piété, de la morale, cette loi qui est déjà empreinte de grâce, cette loi comporte bien des dispositions étranges. Des règles alimentaires sur les animaux que l'on peut consommer ou qu'on ne doit pas consommer. Il y a des règles de pureté rituelle qui sont relatives aux règles elles-mêmes, à la sexualité, l'accouchement, la maladie. Et quant à la vie sociale, cette loi prévoit des sanctions très sévères. La peine de mort y est souvent prévue, et non pas seulement en cas de meurtre, mais par exemple pour discipline invétérée. Pour adultère, sorcellerie, pratique homosexuelle. Et puis cette loi réglemente, sans les abolir, l'esclavage, la polygamie, la répudiation. La condition de la femme y est incontestablement inférieure à celle de l'homme. Et nous voyons ici ressurgir notre impertinente question, Dieu est-il cohérent? Au cours de l'histoire de l'Église, une grille d'interprétation de la loi a été développée qui peut nous aider à mieux cerner les questions que je viens d'énumérer en vrac. Et elle consiste à distinguer dans la loi trois catégories d'énoncés. Premièrement, il y a les énoncés qui touchent à la piété, à la morale. Et ces énoncés ont une valeur permanente. Il est clair que tuer, voler, mentir, manquer de respect à ses parents, maudire un sourd, placer un objet devant un aveugle pour qu'il tombe, ce seront toujours de mauvaises actions. Et que, inversement, se soucier des pauvres, respecter l'orphelin, la veuve, l'étranger, ça reste des principes universels et permanents. La troisième catégorie, je passe tout de suite à la troisième parce que je respecte l'ordre, je respecte plus ou moins l'ordre traditionnel, c'est-à-dire que je dis troisième, mais je le mentionne en second parce que c'est la seconde catégorie qui pose le plus de problèmes. Donc je passe tout de suite à la troisième. Cette troisième catégorie d'énoncés touche au culte, au rite. Et l'enseignement de Jésus, et surtout de Paul, nous montre que ces règles doivent être considérées comme transitoires. Le chrétien n'offre plus de sacrifices, il ne pratique plus la circoncision, du moins pas comme chrétien. Alors il y a des juifs chrétiens qui continuent à pratiquer la circoncision, mais ça n'est pas un rite qui fait de nous des membres du peuple de Dieu. Il ne pratique plus la circoncision. Il n'a plus à respecter des règles rituelles touchant à l'alimentation, à la sexualité. Bon, il y a bien des règles concernant les relations sexuelles, mais et là, il s'agit de règles rituelles qui, par exemple, font qu'il ne faudrait pas avoir de relations sexuelles la veille d'un culte. Ces règles étaient rudimentaires, des règles caractéristiques de l'étape antérieure de l'action de Dieu, une étape qui est dépassée. Le chrétien en est affranchi et la cohérence de l'action de Dieu est cependant perceptible, même dans ses règles, même dans ses dispositions transitoires, puisqu'un lien les unit à la réalité qui est en Christ. Et cela est particulièrement visible pour les sacrifices qui préfigurent le sacrifice unique et parfait offert par le Christ. Ce sacrifice qui, par là même, abolit toutes les ordonnances relatives au sacrifice. Alors cette troisième catégorie ne présente guère de problème de cohérence. Mais c'est la deuxième catégorie qui en fait pose les problèmes les plus délicats. Cette deuxième catégorie, elle concerne l'organisation sociale, la manière d'envisager, de régler certains litiges, les sanctions qui doivent être appliquées aux contrevenants, etc. Et avec ce type d'énoncé, c'est toute la question du rapport du chrétien et de l'Église avec la dimension sociale, politique de l'existence humaine qui est posée. Alors sur ces questions, il faut bien reconnaître que les chrétiens ont, suivant les temps et les circonstances, hésité ou opter de manière tout à fait résolue pour des attitudes différentes et parfois diamétralement opposées. Ça va depuis le retrait total du monde jusqu'à l'investissement politique le plus actif, on pourrait même dire de l'activisme. Et puis ça va depuis le soutien délibéré à l'ordre établi jusqu'à l'activisme révolutionnaire. La réponse n'est pas simple. D'autant plus que la question n'est pas abordée de manière étendue dans le Nouveau Testament. Mais heureusement, Jésus, répondant à une question sur le divorce, sur la répudiation, nous a ouvert une voie d'approche. Jésus dit à ses interlocuteurs, qui lui posent la question, mais pourquoi Moïse a permis le divorce ? Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis la répudiation. Matthieu 19, verset 8. Et en rattachant cette disposition de la loi à la prise en compte de la dureté du cœur humain, Jésus nous incite à considérer la loi dans sa composante civile et pénale, à la considérer non pas comme une loi idéale, qui reproduirait sans aucun écart la volonté du Créateur, mais à la considérer comme étant adaptée à des conditions imparfaites, plus ou moins dégradées, qui obligent à des écarts plus ou moins grands avec les intentions divines. Réglementer la répudiation, plutôt que de l'interdire purement et simplement, c'est, dit Jésus, tenir compte de la méchanceté des humains, hommes ou femmes. Donc dans le cas particulier, c'est surtout les femmes qui risquent d'être victimes, puisqu'il ne s'agit pas vraiment de divorce, hein, avec une société inégalitaire dans laquelle la polygamie pour les, est autorisée, c'est en fait l'homme qui répudie sa femme. C'est tenir compte de cette méchanceté qui amènera, que cela soit licite ou pas, qui amènera une proportion non négligeable de maris à répudier leur femme ou à la laisser tomber. Et dans ce cas, la réglementation minimum qui impose au mari l'obligation de rédiger à l'intention de son épouse un acte de répudiation, vient tempérer un peu la dureté de la situation. Parce que l'épouse répudiée a la preuve qu'elle est dégagée de toute obligation envers son ex-mari, et cela lui donne la garantie d'une situation juridique claire à partir de laquelle elle peut tenter de refaire sa vie, comme on dit. Alors ça reste dur. Il faut bien dire injuste. Mais la loi de Moïse n'entreprend pas de redresser toutes les injustices. Et de manière très réaliste, elle nous renvoie en fait à l'injustice foncière des humains. Une injustice qui précède les lois, qui contourne les lois, qui va jusqu'à inspirer des lois injustes, qui fait que l'on se joue des lois elles-mêmes pour que l'injustice se donne libre cours. Et d'ailleurs, Jésus ayant donné cette explication, qui ouvre le champ à la réflexion chrétienne sur les législations humaines, Jésus s'empresse de refermer ce débat législatif qui était ouvert par ses interlocuteurs, pour les renvoyer à la morale. La morale qui se nourrit de la volonté du Créateur, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et il définit ainsi pour nous, croyants de la Nouvelle Alliance, une priorité. Mettre en pratique la volonté du Créateur, l'enseigner avant de nous investir dans des projets législatifs ou dans le commentaire des lois existantes. Alors ça reste une des formes légitimes de la responsabilité chrétienne. On ne devrait pas le nier à quelques jours, enfin, c'est bientôt les élections. Mais ça n'est pas la mission première du croyant. La mission première, c'est de mettre en pratique la volonté du Créateur et de témoigner de notre foi. Je termine. Cohérence de Dieu dans la loi et la grâce qui trace la voie de notre propre cohérence vis-à-vis de Dieu. La cohérence de la repentance. Dieu ne nous sauve pas en annulant sa loi. Nous sommes bien coupables devant lui. Et c'est son pardon que nous devons obtenir. C'est son pardon que nous pouvons obtenir. Un pardon complet par Jésus-Christ. Cohérence de la repentance, cohérence de l'obéissance. Dieu ne nous sauve pas sans nous appeler à une conduite qui lui fasse honneur, qui nous fasse honneur. Quel potentiel vous représentez? Quel témoignage à la cohérence de Dieu, cela peut être, à la beauté de sa grâce, de son pardon. Si cette cohérence de l'obéissance se voit en nous.